RFI, bienvenue. Il est 1h en temps universel, 2h à Paris, 5h à Bakou.
Mathis Limano.
En Azerbaïdjan, ouverture de la COP29 ce lundi et l'objectif cette année, mobiliser les pays riches pour aider financièrement les pays du Sud dans leur transition écologique avec toujours cet engagement de 100 milliards par an. Ensuite, le limogeage du Premier ministre Gary Conil en Haïti, son très mauvais bilan contre les groupes armés a pu avoir raison de lui. C'est l'analyse d'un politologue haïtien, vous l'entendrez. Et puis, reportage à suivre à Paris lors des cérémonies du 11 novembre, l'anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale était cette année placé sous le signe de l'amitié entre la France et le Royaume-Uni. Top départ de la COP29 ce lundi à Bakou, en Azerbaïdjan. Nouvelle conférence sur le climat dont le sujet numéro 1 cette année sera l'argent. Combien les pays les plus riches vont-ils mobiliser pour soutenir les pays du Sud dans leur transition écologique? L'engagement pris en 2009, toujours en vigueur, de 100 milliards de dollars par an des pays du Nord vers les pays moins développés n'a pas été tenu à temps. Justine Fontaine, comment expliquer ce retard?
Cette promesse remonte à la COP15 de Copenhague. Les pays industrialisés s'étaient engagés à verser 100 milliards de dollars par an aux pays du Sud sous forme de dons ou plus souvent de prêts, cela au plus tard à partir de 2020. Sauf qu'en 2020, le compte n'y était toujours pas. Le montant n'a été atteint que 2 ans plus tard et souvent c'était de l'argent destiné initialement à de l'aide au développement. Alors que dans le même temps, face au Covid-19, les plus grandes puissances mondiales ont réussi à débloquer très rapidement des milliers de milliards de dollars pour faire face à la pandémie. L'engagement pris en 2009 arrive à son terme à la fin de l'année. Il faut donc trouver un nouvel accord. Un groupe d'experts de l'ONU chiffre non pas à 100 milliards, mais plutôt à 500 milliards par an les besoins pour l'action climatique dans les pays du Sud. Un montant probablement sous-évalué qui semble pourtant difficile à atteindre lors de cette COP. Car après le Covid, justement, la dette a explosé un peu partout dans le monde et de nombreux États cherchent à réduire nettement leurs dépenses publiques.
L'élection de Donald Trump pèse aussi sur cette COP puisqu'il avait retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat lors de son premier mandat. Une COP marquée également cette année par l'absence de plusieurs chefs d'État de premier plan, comme le président brésilien Lula, le russe Vladimir Poutine ou encore le français Emmanuel Macron. Cela n'a pas empêché lundi soir les pays du monde entier d'adopter les premières règles de l'ONU pour le marché controversé des crédits carbone, une étape clé pour aider les pays à remplir leurs obligations climatiques. En Haïti, le Premier ministre Gary Conil débarquait seulement 5 mois après son arrivée au pouvoir. Le Conseil présidentiel de transition qui assure l'intérim de la présidence haïtienne jusqu'à l'organisation de nouvelles élections vient de nommer par arrêté un nouveau chef de gouvernement. Fin d'une séquence politique tendue entre les deux têtes de l'exécutif marquée, selon le politologue haïtien Jacques Nézy, par un exercice du pouvoir trop solitaire côté Gary Conil, mais aussi par un bilan très sombre en matière de lutte contre les groupes armés qui menacent la stabilité d'Haïti.
Depuis l'arrivée de Gary Conil, il faut le souligner, les gangs gagnent du terrain. Ils ont conquis Gressier, Solino, Léogane. Puis il faut le rappeler, le massacre de Ponsandé, avec plus de 115 morts le 6 octobre dernier, est à une totale impunité. Et sans également, pour Gary Conil, la possibilité de proposer un plan de sécurité. Donc il y a un manque de résultats, il y a aussi une lassitude de la population locale qui est abandonnée à elle-même face aux attaques, aux enlèvements. Les gangs enlèvent les gens chez eux depuis cette semaine à Port-au-Prince. Et malgré ces souffrances, le gouvernement n'a proposé, par exemple, aucune solution de relogement de ces populations. Donc, une absence de résultats. Et puis aussi, il y a une absence d'alliance, de lien avec les acteurs politiques locaux.
Jacques Nézy avec Anne Cantner dans RFI Midi. Le nouveau Premier ministre haïtien, Alix Didier Fils-Aimé, officiellement investi ce lundi. Il a promis de rétablir la sécurité dans le pays alors qu'un avion de ligne américain a essuyé des tirs ce lundi lors de son atterrissage à Port-au-Prince avant d'être dérouté en urgence vers la République dominicaine. La compagnie propriétaire de l'avion Spirit Airlines a dit suspendre ses liaisons avec Haïti dans l'attente d'une évaluation approfondie.
RFI.
Nous allons vers une large défaite et acceptons la décision du peuple. Pravin Jugnauth a reconnu sa défaite en début d'après-midi ce lundi à Maurice. Le Premier ministre sortant battu dans les urnes lors d'élections législatives organisées ce dimanche. Une débâcle électorale même, puisque sa coalition risque de n'obtenir aucun siège au Parlement. Le verdict officiel des résultats n'est pas encore tombé, mais l'Alliance du changement l'emporte haut la main. Son chef de file, Navin Ramgoolam, qui a déjà été 3 fois Premier ministre, s'apprête à reprendre le pouvoir. Et à quelques 2000 km de là, en Afrique continentale, au Mozambique, Venancio Mondlane vient d'annoncer les modalités de la 4e phase de la contestation électorale. Le candidat de l'opposition à la présidentielle s'est exprimé dans une vidéo postée sur sa page Facebook. Depuis près de 2 semaines, il mène une campagne de contestation pour protester contre la fraude électorale, alors que le pays attend toujours les résultats définitifs des élections générales du 9 octobre. Cette 4e phase de la protestation démarrera mercredi. Penani Traoré.
Ce sont les intérêts économiques du pays qui sont dans le viseur de Venancio Mondlane. Comme pour les phases précédentes, le candidat de l'opposition appelle à la grève générale. Mais cette fois-ci, il demande que les manifestations se concentrent dans les capitales provinciales, les ports et aux frontières terrestres. « Nous allons tout paralyser », promet Venancio Mondlane. Le mouvement de protestation doit durer 3 jours. Dimanche, le poste de Ressano Garcia à la frontière avec l'Afrique du Sud a été rouvert. Des échauffourées mercredi avaient poussé les autorités sud-africaines à fermer leur côté, provoquant, selon les autorités mozambicaines, près de 6 millions d'euros de pertes. Dans le secteur des affaires, des voix commencent à faire part de leurs préoccupations. La Confédération des associations économiques s'inquiète notamment du secteur touristique. Les réservations sont annulées, le niveau de confiance des touristes est affecté, déplore Mohamed Abdullah, responsable du secteur de l'hôtellerie. Selon le Centre pour l'intégrité publique, une organisation de la société civile, le mouvement de protestation aurait déjà coûté au Mozambique près de 360 millions d'euros.
À Paris, les cérémonies du 11 novembre se tenaient ce lundi. Cette année marque le 106e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Les commémorations ont lieu sous l'Arc de Triomphe en présence du chef de l'État, Emmanuel Macron. Des commémorations placées cette année sous le signe de l'amitié avec le Royaume-Uni, symbolisée par la présence de son Premier ministre Keir Starmer. Et dans la foule, plusieurs Britanniques venus y assister. Baptiste Coulon est allé à leur rencontre avec cette question. Plus d'un siècle après la fin de la Première Guerre mondiale, quel sens accorde-t-il à l'amitié franco-britannique ?
God Save the King, chanté par le chœur de l'armée française sous l'Arc de Triomphe, l'amitié franco-britannique célébrée à l'occasion des 120 ans de l'entente cordiale entre les deux pays, sous l'œil de Matt, originaire d'Oxford au Royaume-Uni.
Nous sommes amis avec la France, on est alliés, on se soutient, c'est très important. Quand on voit la situation en Europe, aux portes de l'Europe avec l'Ukraine, on se dit que plus on est soudés, plus on a de chances de maintenir et même de renforcer encore cette alliance.
Une amitié qui a aussi connu quelques passages à vide. Alena est étudiante à Paris.
J'étais encore enfant quand le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union européenne. Et aujourd'hui, beaucoup de gens constatent que cette décision a cassé des liens d'amitié que nous avions avec nos voisins et nos amis.
Alors être présent ici à Paris, c'est à la fois un acte de mémoire et une façon de mesurer le chemin qu'il reste à parcourir.
Je pense qu'il est aussi important de célébrer les amitiés que nous avons maintenant que de se rappeler à quel point ces amitiés sont difficiles à gagner. Il suffit de regarder le nombre de victimes en Ukraine, qu'elles soient ukrainiennes ou russes, pour s'en rendre compte. Quelque chose de différent et d'alternatif est plus que souhaitable. Mais je pense que nous échouons en ce moment. La communauté internationale peut mieux faire.
La cérémonie s'achève par une accolade entre Emmanuel Macron et Keir Starmer. Tous deux repartent dans leurs convois respectifs.
Reportage à Paris de Baptiste Coulon. Accord trouvé entre le gouvernement de Rome et la compagnie aérienne allemande Lufthansa. Accord qui porte sur la cession de la compagnie nationale italienne ITA Airways. Le mariage prévoit dans un premier temps une acquisition de 41% d'ITA Airways par la Lufthansa. Cela représente 325 millions d'euros. Et dans l'affaire du crash d'un Boeing 737 MAX de l'Ethiopian Airlines en mars 2019, l'avion s'était écrasé 6 minutes après son décollage de la capitale éthiopienne tuant l'ensemble des passagers et équipages. Le constructeur américain a scellé un accord avec les proches d'une victime. Il doit encore être validé par le juge. Le procès devrait s'ouvrir ce mardi aux États-Unis. Victoire tout en maîtrise en tennis pour Alexander Zverev au Masters ATP à Turin en Italie. L'Allemand a battu Andrei Rublev en 2-7, 6-4, 6-4. Plus tôt dans la journée, le Norvégien Casper Ruud a fait sensation en battant l'un des prétendants au titre, Carlos Alcaraz, sur le score de 6-1, 7-5. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Il est 2h10 à Paris.